Bonsoir à tous, c'est le rendez-vous. Troisième saison, deux plateaux pour trois invités liés ce soir par une certaine idée du sujet. 19h15, plateau 1 avec Benoît Peters qui, après Hergé, Hitchcock, Chris Ware, Paul Valéry, signe à la fois sa biographie de Jacques Derrida et son journal d'écriture, Manon Farine.
Oui, le titre « Trois ans avec Derrida », un exercice littéraire publié aussi chez Flammarion, ou l'autoportrait en biographe de Benoît Peters.
19h35, la session de Kelly Evans, c'est une programmation signée Mathieu Conquet. Je pense que le nom, c'est pas le bon, c'est ça?
Si, c'est bon. Ah, la chanteuse canadienne Kelly Evans qui sort un album autour de Nina Simone et non pas en hommage. Alors, comment faire autour et non pas en hommage? La réponse tout à l'heure en deux.
Plus un. Moi. Merci Raphaël Bourgois. On se retrouve demain pour un nouveau journal de la culture. Retour plateau avec nos invités Benoît Peters et Philippe Lançon. Quelques réactions par rapport à ce qui a pu être évoqué dans le journal de la culture ou dans les titres du journal, Philippe Lançon?
Non, pour moi, Montargis, c'est un endroit où il y a beaucoup de Turcs. J'ai fait des reportages jadis et il y avait une très forte communauté turque. Donc voilà, c'est peut-être, ce serait intéressant de savoir si les Turcs qui y vivent écoutent Michael Jackson.
Ou font partie de cette confrérie.
Ou vont en faire partie, on pourrait leur poser la question.
Benoît Peters.
Ben moi, il y a trois mots qui m'ont parlé directement par rapport au sujet dont je sors. Le premier, c'est celui des archives, la question des archives que j'ai abordée constamment dans ce travail biographique et dont on peut mesurer l'intensité et qui, pour Derrida, était un grand thème de réflexion. Le deuxième mot, c'est corrida. On aurait cru que c'était fait pour, puisque c'est un des derniers engagements de Derrida, de plus en plus sensible à la cause animale et qui est devenu, alors qu'il était déjà malade, président d'une association pour l'abolition définitive de la corrida. Donc c'est peu dire qu'il était contre, il était vraiment radicalement opposé à la corrida. Et le troisième mot, bien sûr, c'est celui par lequel tout a commencé, Alger. Pas spécialement pour la bande dessinée, quoi qu'elle me concerne par d'autres biais, mais Alger comme lieu d'origine et comme... Bon, origine est un mot piégé quand on parle de Derrida, mais en tout cas, quelque chose qui a mis du temps à prendre toute sa place dans son œuvre et qui est certainement un des moteurs constants de sa pensée. Et une des choses qui compte le plus.
Pourquoi vous dites origine piégée quand il s'agit de Derrida, justement, par rapport à Alger, notamment?
Parce que le mot même d'origine est un de ceux que Derrida n'a cessé de mettre en cause, comme tous les garants de l'unité, de la présence, etc. Tout ce qu'il va considérer comme logocentrisme, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais profondément, cette origine, à la fois essentielle, et toujours problématique, va définir peut-être le rapport à l'identité ou la non-identité, l'appartenance et la non-appartenance qui est caractéristique de Derrida, et puis la guerre d'Algérie qu'il va vraiment vivre très très profondément et très fortement, et sans doute le ferment de toute sa pensée politique ultérieure, même si à l'époque de la guerre d'Algérie, sa famille vivant sur place, il ne pouvait rien en écrire.
À quel moment précisément, justement, on peut repérer la réapparition de ses origines algériennes dans son travail et dans son œuvre, justement? Parce que ça apparaît plus tard, il y revient beaucoup plus tard.
Oui, Derrida a eu besoin de montrer patte blanche. Il arrive en métropole, il arrive à Paris pour la première fois à 19 ans. Il a fait son hippocagne à Alger, il fait sa cagne à Louis le Grand, et il arrive là avec un sentiment de ne pas faire partie du sérail. Il est parmi les internes, les pauvres, avec Bourdieu et Michel Serres, qui sont aussi dans les internes. Il y a un certain nombre de grands bourgeois parisiens qui, eux, rentrent chez eux à midi, rentrent chez eux le soir, qui connaissent les codes, qui maîtrisent la culture, et Derrida est profondément insécurisé. Et lors de ses premières publications, dans les années 60, il s'agit pour lui de se faire autoriser, d'une certaine façon. Même si philosophiquement, il ébranle déjà un grand nombre de notions, il ne veut pas laisser directement parler la judéité, même si elle est présente dans ses premiers articles sur Jabès ou Lévinas. Il ne veut pas laisser parler directement l'Algérie. Quand une certaine forme de notoriété lui sera acquise, il va revenir à ce qui le préoccupait, évidemment, dès ses débuts et dans ses premiers écrits, dans ses écrits intimes, dans ses lettres. Et là, la double dimension, comme je le disais, profondément interrogée et toujours inquiète de la judéité et de l'algérianité, doublée de ce qu'il appelle, reprenant le titre d'une chanson des années 30, la nostalgérie, qui est fondamentale chez lui. Tout cela va nourrir son écriture et plusieurs des textes tardifs, dont un très très beau livre qu'on lit trop peu, qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre », et où il évoque notamment le rapport dans son enfance à la langue arabe comme langue proche et lointaine à la fois.
Philippe Lançon ?
Oui, juste une question sur l'algérianité et sur ses origines. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il pensait de quelqu'un comme Camus ?
Alors, c'est une des choses que j'essaye de de développer assez longuement, puisque Camus est longtemps le non-dit chez Derrida. Sartre est, dans sa jeunesse, le modèle affiché, celui qui lui a fait découvrir Genet, Blanchot et bien d'autres, mais celui auquel il s'oppose. Et Camus, c'est presque l'indicible, peut-être parce que c'est trop proche. En même temps, de manière jolie et prémonitoire à bien des égards, le premier cadeau qu'il va faire à Marguerite Aucouturier, qui deviendra son épouse, c'est « Noces de Camus ». Bon titre formidable, mais en même temps, livre qui ressuscite cette jeunesse algérienne, cette jeunesse du soleil, de la plage, où toute la dimension solaire de Camus lui parle. Et puis, pendant la guerre d'Algérie, dans ses lettres, notamment dans plusieurs lettres que je reproduis, une à Pierre Nora, qui avait écrit un livre sur les Français d'Algérie en 1961, qui passionne Derrida et qui en même temps le heurte, Derrida dit « Et si ma position peut sembler proche de celle de Camus, eh bien je l'assume, celle de Camus, celle de Germaine Tillon, en a-t-on de tellement meilleur à proposer ?» Et il va y avoir ce modèle difficile dans la pensée politique de Derrida, cette pensée d'une issue qu'il sait impossible et qui pour lui aurait été désirable, qui aurait permis de concilier l'attachement à cette terre, où sa famille était depuis bien avant la colonisation française, arrivée depuis le XVIIIe siècle, l'attachement à cette terre et le mouvement de la décolonisation. Et ça, c'est le modèle qui le fascinera plus tard chez Nelson Mandela par rapport à l'Afrique du Sud, l'idée du vivre ensemble. Et dans toutes les positions de Derrida par rapport à la Palestine et par rapport à Israël, c'est toujours cette idée-là. Il y a peut-être autre chose à faire que des États radicalement séparés. Il y a peut-être d'autres modèles à inventer. C'est une position inconfortable, mais je pense qu'elle vient du fait que sur la guerre d'Algérie à l'époque, il lui était impossible de prendre la parole.
Alors Benoît Peter, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes donc le biographe de Jacques Derrida, donc aux éditions Flammarion. Juste une question, parce que vous présentez dès l'introduction, comme ça au moins vous nettoyez le paysage, ce ne sera ni une biographie intellectuelle, ni un ouvrage théorique, ni une biographie derridienne, mais bien une biographie de Derrida. Quels étaient les liens que vous aviez avec lui? Et là, je pose la question aux disciples de Barthes.
J'ai été étudiant de Barthes, que j'ai beaucoup mieux connu que Derrida, mais j'allais de temps en temps suivre les séminaires à Normale Sup. Je lisais beaucoup Derrida et puis surtout, j'ai eu la chance de le connaître dans des circonstances un peu étranges et d'ailleurs qui peut-être lui ont causé un peu de tort. Avec une grande amie photographe, Marie-Françoise Plissard, nous avions réalisé en 1983 un récit photographique assez érotique qui s'appelle « Droit de regard ». Et c'était un récit muet que Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, voulait publier, mais dont il disait « tel quel ». C'est impossible, sans page, sans une parole, les gens vont le feuilleter, ils ne vont pas comprendre que c'est à lire. Il faudrait une préface. Et je dis, ben, s'il faut une préface, je ne vois qu'un seul, une seule personne possible, c'est Jacques Derrida. Il dit, si vous me ramenez une préface de Jacques Derrida, on sort le livre, mais de toute façon, vous ne l'aurez jamais. Et donc, nous sommes allés trouver Derrida avec cette étrange chose qu'il a regardé avec attention, tout en nous disant que c'était impossible, qu'il était débordé, qu'il croulait sous les projets, sous les travaux, etc. Mais en demandant imprudemment à en garder une copie. Et puis, quelques mois plus tard, pendant l'été, un jour, il m'appelle. Je garde ce souvenir très présent et un peu insolent. Il m'appelle et puis il me dit « J'en suis à 70 pages, qu'est-ce que vous pensez ?» Et je lui réponds du tac au tac, je crois qu'il va falloir songer à conclure. Il dit oui, en quelques pages, je peux y arriver. Effectivement, il ne faudrait pas que ce soit aussi long que votre travail, qui faisait une centaine de pages. Et ça nous a valu de voyager ensemble à plusieurs reprises et d'avoir des conversations libres qui, évidemment, si je ne l'ai jamais interrogé sur sa biographie à l'époque, et si pas une seconde, je n'ai imaginé de devenir un jour son biographe. Ces conversations, ces moments passés ensemble, dans l'ouverture et la curiosité d'esprit qu'il caractérisait, m'ont laissé une image forte qui fait que cette biographie, je ne peux pas dire que je l'ai écrite vraiment de l'extérieur. Je ne suis pas un Derridien au sens philosophique, je ne suis même pas un philosophe, mais mon parcours en philosophie est très réduit. Mais j'ai gardé de cette courte fréquentation quelque chose de très fort. Et puis j'ai retrouvé un jour une lettre, et j'en parle dans ce petit livre, 3 ans avec Derrida, je retrouve une lettre où il nous demande pardon à Marie-Françoise Plissard et à moi de rendre si tard son texte, alors que c'était lui qui nous faisait un cadeau somptueux, mais c'est très Derridien cette attitude, et où il nous dit « Si vous pouviez imaginer ce qu'a été ma vie cette année, vous me trouveriez quelques excuses. » Et trouvez ça, « Si vous pouviez imaginer ce qu'a été ma vie, alors que j'étais déjà lancé dans l'écriture de la biographie, a été pour moi comme un signe, comme une de ces revenances » dont il a tellement parlé.
1983, cette année-là.
Le livre est sorti en 1985 et il vient d'être réédité, cet album, avec ce très beau texte de Derrida.
On parlera tout à l'heure de l'année 83. Philippe Lançon.
Oui, ça me rappelle juste cette histoire formidable le livre de Lucien Malson, L'enfant sauvage, qui est un livre que beaucoup de gens connaissent. Et il y avait un très très grand herméneuticien et écrivain espagnol, Rafael Sánchez Ferlosio, qui devait faire une préface pour une édition et une traduction espagnole à ce livre. Et la préface est arrivée très tardivement et elle faisait à peu près le double du livre. Et le livre n'a jamais été publié. Il a été édité. J'en ai un exemplaire que Sánchez Ferlosio m'a donné un jour où je suis allé le voir. Mais ce livre n'a jamais été édité parce que l'éditeur était, comme vous pouvez l'imaginer, horrifié.
On a un cas extraordinaire aussi et qui a beaucoup touché Derrida. C'est le Saint-Genet, comédien et martyr de Jean-Paul Sartre. Tome 1 des œuvres complètes, occupant à lui seul ce tome. Et quand Derrida, qui a été très ami avec Genet, s'occupera de Genet dans le livre Glas, ce sera pour éviter ce qu'il considérait comme une erreur, c'est-à-dire l'enfermement d'une œuvre libre dans un discours critique. Cette deuxième prison que pouvait ce livre, si admirable soit-il par ailleurs.
Manu Farine.
Alors le sujet Derrida, hein, Benoît Peter, s'impose évidemment une réflexion d'abord quant au genre biographique à proprement parler. La preuve en est notamment par le dispositif éditorial que vous avez mis en place, c'est-à-dire que vous publiez simultanément cette somme, hein, cette biographie énorme, et un second ouvrage, 3 ans avec Derrida, les carnets d'un biographe, qui est un livre un petit peu conçu comme une sorte de journal d'écriture, hein, donc le journal véritablement de cette biographie, et qui apparaît au fond très rapidement comme un exercice littéraire à part entière. Je pense notamment au tout début, hein, où vous reproduisez par exemple la page Wikipédia de Derrida en démarrage d'ouvrage, et puis en digressant ensuite sur vos propres lectures à vous. Et on a assez rapidement le sentiment, au vu de la qualité littéraire de ce texte-là, que vous pointez là une forme d'insuffisance du genre biographique d'un point de vue de l'écriture.
Écoutez, je n'avais pas envie d'écrire une biographie déridienne tout encombrée de mes réflexions, de mes pensées, parce que je crois que beaucoup de lecteurs cherchent avant tout à trouver Derrida et à trouver peut-être une porte d'entrée dans son œuvre. Mais en même temps, le genre biographique me passionne et je crois que c'est un genre mal aimé. Et c'est étrange parce que à peine je m'étais lancé...
Il y a beaucoup de lecteurs, mais peu de défenseurs.
Voilà. Le genre en tant que tel est toujours déconsidéré. Et il a été déconsidéré, évidemment, par la modernité. On sait que Pierre Bourdieu avait fait un article très célèbre sur l'illusion biographique. La plupart des philosophes s'en méfient. Et pourtant, je pense que la biographie bien pensée peut rendre de vrais services. Et donc, j'ai tenu cette chronique parallèle, à la fois comme une histoire de mes rencontres, notamment les rencontres avec les témoins ou les résistances de
tout
certains,
le monde,
l'impossibilité à les voir, et de manière aussi franche et aussi peu blessante que possible. Je ne voulais pas être blessant, puisque je ne les prévenais pas que je tenais ce journal, donc il ne fallait pas non plus que ce soit une source de déception.
Non, même on voit si bien les résistances de chacun. Elisabeth Rodinesco qui vous raconte plus sa vie que la vie de...
Cas de tous les témoins. Oui, Genette me l'a dit, Gérard Genette, qui est un merveilleux témoin, me l'a dit dès le début. On a passé une après-midi ensemble, il dit: j'ai l'impression de vous avoir raconté plus ma vie que la sienne. Mais comme moi, je n'étais pas un biographe utilitariste, j'étais très heureux d'entendre Genette raconter une partie de sa vie.
Et oui, sur Genette, d'ailleurs,
vous avez lu le texte. Hein,
oui, je l'ai lu. Et il y a d'ailleurs, à l'intérieur de ce work in progress sur Derrida, il y a des portraits assez magnifiques et précis des gens que vous rencontrez. Et en particulier de Genette, que vous qualifiez, je crois, de à la fois précis, généreux et facétieux, ce qui correspond à l'expérience que j'en ai aussi. Et vous dites qu'en fait, il pose la question de la pondération, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit, dans la biographie, doit être purement de l'ordre de la narration d'une vie, quoi. Et puis, d'autre part, de l'ordre de la pure philosophie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un à un moment qui, je ne sais plus qui dit, je crois que c'est Jean-Luc Nancy, qui dit: mais est-ce que celui-là, il est philosophiquement costaud?
Oui, c'est ça. Il envoie par erreur un message à mon propos en disant: il paraît qu'il est respectueux de Jacques, mais je n'ai aucune idée de ses capacités philosophiques, moi non plus.
Et alors, comment vous pondérez? Comment vous avez eu, est-ce que vous avez eu des difficultés à l'écriture dans cette pondération dont parle Genette?
Bien sûr. L'écriture est une difficulté constante. Il y a deux points. D'abord, ne pas transformer la biographie en essai. Ne pas avoir, et c'était un des points sur lesquels Genette avait attiré mon attention, ne pas avoir des chapitres qui deviennent comme des abcès à l'intérieur de la biographie où pendant 30 ou 40 pages, on s'immobiliserait. Donc plutôt privilégier la jeunesse des ouvrages et leur réception que le commentaire des ouvrages pour lequel je ne suis pas le mieux placé. Je pense que cette jeunesse nous dit beaucoup. Et quand vous voyez la réception, par exemple, la lettre qu'Althusser envoie à Derrida au moment où il reçoit Glas, la lettre que Bourdieu lui envoie en disant « si j'étais resté dans la philosophie, je voudrais écrire comme toi ». Enfin, c'est des choses incroyables. Il y a aussi le moment des polémiques. La polémique, c'est la pensée en acte. C'est la matière rêvée pour le biographe. Mais il y a en même temps cette autre difficulté qui est jusqu'où aller entre la vie publique et la vie intime, la vie personnelle, surtout quand on est très peu d'années après la disparition. Et là, j'ai été aidé par plusieurs déclarations de Derrida lui-même qui ne posaient aucun tabou sur l'exercice biographique. Et quand, dans des entretiens avec Maurizio Ferraris, philosophe italien, lui dit à un moment « Peut-on revenir sur vos 50 années de vie intellectuelle consciente ?» Ce qui correspondrait tout à fait à l'idée de biographie intellectuelle. Derrida dit « Mais je ne comprends pas cette expression. Je ne sais pas ce que serait une vie qui ne serait qu'intellectuelle et je ne comprends pas un siècle après la psychanalyse ce que serait une biographie qui ne travaille que sur le conscient. » Et peut-être qu'un des gestes philosophiques les plus insolites de Derrida, c'est d'avoir laissé parler dans l'écriture, dans le mouvement même de l'écriture, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient dans ce domaine particulièrement réservé à la rationalité qu'est normalement le discours philosophique. Bien sûr, Nietzsche l'a fait aussi, ou Kierkegaard a pu le faire, mais chez Derrida, c'est vraiment profondément revendiqué. On peut dire aussi que Lacan, dans ses textes, laisse surgir l'inconscient, mais c'était en quelque sorte son fonds de commerce, c'est son domaine. Parlant de l'inconscient, il pouvait le laisser parler. Dans la philosophie, c'était vraiment un des gestes les plus insolites. Et je crois que si quelquefois des gens trouvent difficile Derrida, c'est parce qu'ils veulent le lire comme un philosophe classique, en ramenant au fond un livre, un résumé et une série de concepts. Or, je crois que la pensée de Derrida est avant tout un mouvement, et que ce mouvement est inséparable de son énonciation, de même que quand il se penche sur un texte, il accompagne ce texte, il chemine avec lui. C'est particulièrement sensible dans ces documents magnifiques que sont les derniers séminaires qui viennent d'être publiés chez Galilée, La bête et le souverain, où on sent la pensée se faire dans la parole.
Mais cela aussi correspond bien sûr au fait que Derrida, et d'ailleurs vous le mentionnez, n'avait jamais projeté d'écrire un texte. Je cite « Tout ce que j'ai fait, même des livres très composés, l'ont été à l'occasion d'une demande. Je n'ai pas le sentiment que j'ai en moi quelque chose d'intéressant qui devrait m'autoriser à dire « Voilà le livre que j'ai projeté moi-même sans que personne ne l'ait demandé ». Autrement dit, c'est une philosophie véritablement de la réponse, donc de la pensée en direct et de la responsabilité. Tout à l'heure, vous parliez d'une année.
Réponse et responsabilité, c'est essentiel. Hein, il faut bien penser ça. Ce sont, Derrida, ce sont des circonstances faites œuvre, c'est une œuvre en situation permanente, mais il ne faut pas que sa modestie nous donne le sentiment qu'il ne s'agirait que de petits textes épars. C'est quand même à travers cette dispersion, comme chez Paul Valéry, que l'œuvre s'est construite.
Ou comme chez Barthes,
d'un
point de vue. Tout à l'heure, vous citiez une année qui est une année charnière, en fait, dans la vie de Derrida. Un point de bascule qui est en tout cas identifié dans le livre au début des années 80, création du Collège international de philosophie, la nomination à l'EHESS, l'arrivée de la gauche au pouvoir qui est importante pour lui, l'affaire de Prague qu'il a mis sous les feux des projecteurs pour une absurde histoire de drogue, mais 1984
en fait, c'est l'année clé, c'est 84.
Voilà. Et 83, c'est l'année où Derrida tourne pour la première fois dans un film dans lequel il joue son propre rôle. Extrait.
Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes?
Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit au fantôme? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. À ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu. Voilà, le téléphone, c'est le fantôme. Je vais... Allô? Yes? Yeah. There will be a small seminar tomorrow, salle des résistants. Mm-hmm. Okay, I'll be very glad to meet you. Goodbye. Alors, ça, c'était une voix fantomatique, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui aurait pu me raconter n'importe quelle histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le développement de la technologie des télécommunications décuple le pouvoir des fantômes. C'est au fond pour tenter les fantômes que j'ai accepté de figurer dans un film, en me disant que peut-être on aurait les uns et les autres la chance de laisser venir à nous des fantômes, fantômes de Marx, fantômes de Freud, fantômes de Kafka, fantôme de cet Américain. Vous, bon, moi je vous connais depuis ce matin, mais déjà vous êtes traversé pour moi par toutes sortes de figures fantomatiques. Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes?
Maintenant, absolument.
Pascal Augier. Face à Jacques Derrida, dans Ghost Dance du Britannique Ken MacMullen. C'est un film qui revient régulièrement dans le travail que vous avez mené sur Jacques Derrida. Pour quelle raison, Benoît Peter ?
Ben, c'était un moment tout à fait extraordinaire. Je pense que c'est la première apparition du thème de la spectralité, qui va être essentiel, qui sera notamment au cœur du livre « Spectre de Marx », mais qu'on va trouver dans beaucoup d'autres œuvres. Mais c'est surtout une histoire qui l'a frappé profondément. Derrida a une fibre extrêmement affective et sentimentale. On l'oublie quelquefois, on a parfois une image froide qui est tout à fait fausse. Or, Pascal Augier meurt l'année suivante. Et Derrida assiste en Californie à une projection de ce film qu'il n'avait pas revu. Et tout d'un coup, entend Pascal Augier dit « Oui, maintenant j'y crois. Oui, maintenant... » Et cette scène répétée plusieurs fois qui lui réapparaît alors que lui est toujours là. C'était lui qui jouait le fantôme et elle qui l'est devenue. C'est quelque chose qui va véritablement le hanter. Il y a un très beau néologisme tardif de Derrida. Il est plus facile à lire par écrit qu'à entendre, mais c'est l'ontologie. Bon, la philosophie s'est toujours appuyée sur l'ontologie. Et là, c'est l'ontologie avec un H. Donc, ce qui nous hante, ce qui revient, tout ce qui est de l'ordre de la survie. Une notion qui, pour Derrida, est... entre la vie et la mort est inséparable de ces deux choses. Il va dire à la fin de sa vie, affirmer toujours la survie. Mais cette survie est déjà dans la vie. C'est un thème qui peut-être fait son apparition dans cette circonstance apparemment anecdotique. On peut dire qu'est-ce que Derrida va faire, de même que qu'est-ce qu'il faisait en post-façant un roman photo érotique, qu'est-ce qu'il faisait en jouant avec Pascal Augier. Eh bien, je crois qu'il poursuivait exactement les mêmes préoccupations que celles qui l'occupaient. Et là, il est profondément différent de beaucoup de philosophes.
Philippe Lançon ?
Oui, ce qui me frappe en écoutant cet extrait du film, c'est que les fantômes sont très délicats. En fait, il y a une grande délicatesse dans cette interzone, en quelque sorte.
Le fantôme d'Héridien est un ami.
La session.
Le fantôme d'Héridien est un ami. Il fallait quand même préciser donc la phrase qu'on a mal
entendue.
On l'a entendue sur le générique de la session qui vous concerne et qui nous concerne, Mathieu Conquet, avec votre invité.
Oui, puisqu'il est question de jazz ce soir avec la chanteuse Kelly Lee Evans qu'on reçoit, je vais revenir quand même sur cette anecdote que vous relatez, Benoît Peter. La rencontre qui a eu lieu, mais n'a pas eu lieu sur scène, entre Derrida et Ornette Coleman. Je vous laisse la raconter.
Oui, c'est une histoire un peu triste. Ornette Coleman, admirateur et lecteur de Derrida, pensant que sa réputation française est égale à sa réputation américaine.
Ornette Coleman, c'est le fondateur du free jazz, c'est le jazz qui a déconstruit le jazz. Hein.
Voilà, il vient à la Villette, il rencontre Derrida toute une après-midi, ils parlent ensemble de leurs trajectoires respectives et il est tellement séduit, Ornette Coleman, qu'il propose à Derrida d'improviser un texte sur scène en même temps qu'il improvisera musicalement. Derrida écrit un texte qu'il s'entraîne à dire de manière jazzée, presque musicale, mais Ornette Coleman ne le présente pas, pensant qu'on ne présente pas Derrida, que ce n'est pas la peine. Le public n'est venu que pour la musique. Un certain nombre de gens commencent à gronder, à râler. Ornette Coleman joue pour essayer
gueule,
de couvrir.
Barre-toi.
Voilà, barre-toi.
Et c'est, pauvre con.
Et c'est un choc. C'est un choc pour Derrida, qui a toujours été habitué à des auditoires complices, qui a toujours pris son temps, un peu moins que Fidel Castro, mais quand même, dont les discours peuvent être longs, et qui se trouve piteusement chassé de la scène. Ce qui confortera une idée chez lui, c'est que la France ne l'aime pas. Et ça, profondément, c'est une tragédie de Derrida, c'est qu'il a été aimé partout, sauf chez lui.
Voilà, les choses se sont un peu mieux passées pour Kelly Lee Evans, canadienne, aux États-Unis en 2004, quand elle participe au concours Thelonious Monk, où elle passe devant les jurés, dans l'assistance Quincy Jones, Al Jarreau, Didi Bridgewater et Jimmy Scott. Et malgré son inscription tardive, ils vont lui attribuer le deuxième prix, pour des raisons vocales que vous allez comprendre dans la suite. Alors je présente rapidement Kelly Lee Evans, canadienne, je l'ai déjà dit, avec des racines jamaïcaines. Au départ, elle s'était plutôt inscrite dans le répertoire soul pop. Pour son troisième album, elle se tourne vers le jazz, pour un disque aux ambitions prométhéennes, sous le signe de Nina Simone. On peut parler encore d'anthologie avec un H, avec des thèmes de Gershwin, I Love You Porgy, Duke Ellington, mais aussi côté français des versions de Brel ou d'Aznavour dont elle avait rendu ses propres versions inoubliables. Alors comment est-ce qu'on échappe au tel poids d'un projet et d'un tel disque? Et bien, par exemple, en gardant son propre phrasé, en ne rejoignant pas les tempos, les tempi habituels, et en évitant par exemple le piano qui s'impose pourtant quand on rejoue Nina Simone avec des arrangements pour la guitare et servi par une section rythmique excellente sur le disque, André Ceccarelli et François Moutin. Ce soir à la guitare, c'est Eric Lorer, Kelly Lee Evans et le titre « Do what you got to do » en direct sur France Culture.
Man, I can understand
girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. You see, I wanted you to know I loved you better than your own kitty. From the very start, it's my own fault what happened to my heart. You see, I've always known you'd go, so you just do what you gotta do, my wild sweet love. Though it may mean that I'll never kiss those sweet lips again, that no mind, find that dappled dream of yours and see me when you can. Now I know it'll make you feel sad and make you feel so bad. They say you don't treat me like you should. They got ways to make you feel no good. I guess they got no way to know I had my eyes wide open from the start. A man can never lie to me, a part of you that they'll never see is a part you've shown to me. So you just do what you gotta do, my wild sweet love. Though it may mean that I'll never kiss so sweet lips again, pay that no mind, find that dappled dream of yours. Come on back and see me when you can. So you just do what you gotta do, my wild sweet love. Oh, it may mean that I'll never kiss so sweet lips again. Ooh, pay that no mind, find that dappled dream of yours. Ooh, come on back and see me when you can. When you can, when you can, when you can.
C'était Kelly Evans, on la retrouve tout à l'heure pour un deuxième titre, et puis son album Nina est paru sous le label Plus Loin Musique.
Rendez-vous.
Et on retrouve Kelly Evans pour un deuxième titre, Don't Let Me Be Misunderstood, Ne Me Laisse Pas Incompris, un titre qui était vrai pour Nina Simone, puisque certains y ont vu au moment de la réception un sous-texte de lutte pour les droits civiques, d'autres y ont vu une chanson personnelle qui résumerait sa carrière et sa vie. Cat Stevens, qui a souvent repris la chanson, a lui aussi expérimenté ça, le fait d'être incompris, notamment quand il s'est converti à l'islam. On écoute Kelly Evans pour sa version de Don't Let Me Be Misunderstood, accompagnée à la guitare d'Eric Lohrer, en direct.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one like can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, baby, maybe sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I do is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never meant to do, 'cause I love you.
Don't you know?